C'est ainsi que la loi ancienne dénonce le péché. Selon la parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains, sans la loi, nous n'aurions pas connu le péché. Nous n'aurions pas su où est le péché qui provoque la souffrance, la mort et toutes les désolations qui sont sur la terre. Bien. Cependant, il y a une autre parole de saint Paul où il dit « La loi est la force du péché ». Parole très mystérieuse. Eh bien, la chose se comprend bien parce que lui, il en a fait l'expérience, saint Paul. Il était pharisien, fils de pharisien, hébreu, fils d'hébreu, circoncis le huitième jour. Il avait tous les avantages de la loi. Et il pratiquait la loi strictement. Et de ce fait, il se trouvait juste aux yeux de la loi. Il se trouvait justifié par les prescriptions de la loi.
Par les rites.
Par les rites. Son attachement aux rites, aux usages d'Israël, la considération qu'il avait dans le peuple choisi, lui donnait l'illusion qu'il était juste. Alors qu'il était cependant pécheur de nature.
Oui.
La loi est la force du péché, pourquoi ? Parce que pour celui qui l'applique, je dirais aveuglément, sans discernement, qu'il applique à la lettre, alors il se croit juste parce que la loi lui donne bonne conscience. Du moment qu'il a payé la dîme, qu'il a offert les sacrifices, qu'il a observé le sabbat en faisant bien attention de ne pas faire plus de 1000 pas ce jour-là, etc., etc., alors il est content parce qu'il est justifié aux yeux de la loi.
Il a racheté son fils à Jérusalem.
Voilà. Ce qui fait que la loi qui était donnée pour dénoncer le péché donne quand même une bonne conscience au pécheur. Et il faut bien que ce soit
oui,
comme
c'est,
ça, d'une
c'est,
certaine
c'est
manière.
C'est une arme à double tranchant.
C'est une arme à double tranchant, bien sûr, mais il faut bien que ce soit comme ça, parce que le pécheur, il ne faut pas tout de même qu'il soit quand même trop écrasé par le péché. C'est terrible d'être écrasé par le péché. Alors les prescriptions de la loi donnent une certaine satisfaction. Et d'ailleurs, en fait, il en est de même aujourd'hui, même si ce n'est pas la loi de Moïse, ça peut être le règlement militaire. Le militaire qui est dans l'armée, qui applique bien, qui sait bien comment il faut frotter son fusil, comment il faut se mettre au garde-à-vous, comment il faut boutonner sa vareuse, etc., et qui obtient ainsi un grade, qui obtient une justification aux yeux de ses supérieurs, il est content parce qu'il a appliqué le règlement. Et le règlement, pour lui, devient une force de péché, parce que ça l'entretient dans son péché.
Voilà.
Voilà. Ça lui donne bonne conscience alors qu'il est dans une mauvaise voie. Donc, il ne suffit pas d'avoir la connaissance du péché par la loi, parce que c'est dangereux, en quelque sorte. Il faut avoir la connaissance de la justice. Or, si la loi donnait la connaissance du péché, c'est la foi, c'est le Nouveau Testament qui nous donne la connaissance de la justice. De la justice qui est d'abord en Jésus-Christ. Voilà. Alors maintenant, nous avons tous les éléments nécessaires pour lire et comprendre les chapitres 2 et 3 de la Genèse, où là, nous trouvons le commandement primordial. Or, ce commandement primordial, il est dans toutes les mémoires. Il est inscrit au chapitre 2 de la Genèse, verset 17. C'est Dieu qui parle à Adam et qui lui dit « Tu mangeras de tous les arbres du jardin de délices, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras de mort. » Voilà le commandement.
Oui.
Alors bon, qu'est-ce que c'est que cet arbre de la connaissance du bien et du mal?
Oui.
Alors il ne faut pas s'imaginer, naïvement, que c'est un arbre, comme par exemple un figuier ou un cerisier, hein, qui porterait un fruit empoisonné.
Oui.
Et que ce fruit empoisonné allait provoquer la mort. Parce que c'est tout de même pas la manducation d'un fruit,
oui,
d'un fruit d'arbre concret, comme une pomme ou une poire, qui peut entraîner un châtiment effroyable comme la mort. On ne peut pas être condamné à mort parce qu'on a mangé le fruit d'un arbre.
D'ailleurs, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que cette connaissance ?
Cette connaissance, ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Ce n'est pas la connaissance de la vérité. Mais le mot connaissance, ici, en hébreu, c'est le mot yada. Yada, yada, ça vient du mot yad, qui veut dire la main. C'est une connaissance expérimentale. Ça veut dire une expérience pratique. Ça veut dire que tu ne commettras pas certains actes pratiques où tu vas récolter un mélange de bien et de mal.
Oui, c'est ça. C'est une expérimentation.
Qu'il
ne faut pas faire.
Qu'il ne faut pas faire parce que tu auras là-dedans à la fois des biens, des satisfactions, des plaisirs, mais tu auras aussi des douleurs, des souffrances, et finalement, tu aboutiras à la mort. Dieu ne veut pas d'ambiguïté. Il ne veut donner à sa créature que le bien. Il ne veut pas que ce soit un bien mélangé à du mal.
Alors, quelle était cette expérimentation qu'il ne fallait pas faire ?
Bon, eh bien, il suffit de voir ce qui, dans la nature, était interdit. Qu'est-ce qui est interdit dans la nature ? Où y a-t-il une interdiction naturelle ? Eh bien, il y a une interdiction naturelle dans le sein de la femme. C'est une interdiction paradoxale. Parce que il est indiscutable que la femme a été créée pour être mère. Elle porte un utérus dans lequel elle pourra concevoir et avoir en elle un embryon et, par conséquent, un enfant. Et elle a des seins pour allaiter cet enfant. La femme est construite pour la maternité, ça ne fait aucun doute. Mais le sein est virginal précisément parce qu'il est fermé par l'hymen. Et que si on ouvre le sein, la femme va saigner. Il va y avoir une effusion de sang. Et cette effusion de sang, d'ailleurs, était prescrite dans le livre des Nombres d'une façon très curieuse par une loi qu'on appelait la loi des signes de la virginité. Lorsque un mariage était contracté en Israël, il fallait que le père de la femme donne au futur mari, au fiancé, une femme vierge. Et alors, lorsque ce mari s'accouplait avec cette femme, il y avait une effusion de sang. On essuyait ce sang avec un linge, et ce linge devait être remis par le mari au père de la jeune fille. C'est curieux, hein ?
Il a testé que
pourquoi
cette femme avait été bien vierge.
Voilà, c'est ça. Parce que ce linge taché de sang était un document par lequel l'époux ne pouvait pas reprocher au père de lui avoir donné une fille déjà ouverte. C'est lui qui avait eu le privilège, sinistre privilège. La loi est la force du péché, là, on peut le dire. Sinistre privilège d'ouvrir le sein de sa femme.
Donc le sein est fermé naturellement.
Donc le sein de la femme est fermé naturellement. C'est l'hymen. Or, toutes les religions du monde et toutes les législations du monde civilisé, j'entends, ont reconnu qu'il y a une faute dans le viol. Le viol est toujours puni parfois par la mort, même par la loi de Moïse, qui dans le Deutéronome au chapitre 22 prescrit que le viol doit être puni par la mort. Et lorsque les Juifs amènent la femme adultère auprès du Christ en disant « cette femme a commis le péché d'adultère », et Moïse dit qu'il faut lapider de telle femme, et toi qu'est-ce que tu dis ? Et le Christ se penche et écrit par terre. Qu'est-ce qu'il a écrit par terre ? Il a écrit la loi de Moïse, Et la loi de Moïse, elle prescrit que ce n'est pas la femme qui doit être lapidée, mais c'est l'homme qui l'a violée. C'est l'homme qui doit être lapidé.
D'abord.
D'abord. Alors c'est pour ça que les scribes qui connaissaient l'écriture, qui ont lu les caractères de Moïse écrits par terre, les scribes et les pharisiens qui accusaient cette femme, qui l'amenaient au Christ pour voir si le Christ connaissait la loi. Hein? C'est un piège qu'ils lui tendaient. Mais quand ils voient que la loi de Moïse est écrite par terre, ils s'en vont. Ils s'en vont tous, confus. Si bien qu'il ne reste plus que le Christ et la femme. Et le Christ lui dit, désormais, va-t'en et ne pêche plus. Bon, quelque chose comme ça. Bon. Donc, voyez-vous, ces prescriptions de la loi montrent bien que le viol est un péché, est une faute.
Oui, mais le viol dans le cadre du mariage,
alors, voilà,
est-ce que c'est un viol?
Dans le cadre du mariage. Ah, voilà le cadre du mariage. Ah, ça y est, là nous y sommes. Alors, dans certaines conditions, il est permis de tuer son prochain parce que quand on est à la guerre, on peut faire le coup de fusil contre un homme qui nous a fait aucun mal. Bon, dans certaines conditions, on se donne la permission de transgresser la loi de Dieu à cause de la société humaine qui est partie de travers dès l'origine et qui va de pire en pire. Alors, dans les conditions du mariage, ah, on s'est tout de même rendu compte que si on permettait le dévergondage complet dans le domaine sexuel, on arrivait à des situations abominables. Alors, il fallait restreindre le viol dans des conditions légales précises où les conjoints pourraient prendre la responsabilité de leur acte. C'est-à-dire que le viol entraînant la fécondation et la génération, pas toujours, mais enfin la plupart du temps, eh bien, il fallait que l'homme et la femme qui avaient commis cet acte acceptent la responsabilité de leur acte en éduquant leurs enfants par la fondation d'une famille. Ça y est.
Oui, mais c'est un viol quand même.
Alors. C'est un viol quand même.
C'est le viol de la nature.
C'est le viol de la nature qui est autorisé par la loi, qui est autorisé par la condition sociale. Et nous retrouvons...
C'est peut-être pas le viol de la personne, puisque la personne est consentante.
Ah, la personne est consentante, à ce moment-là, oui. Parce que quand il y a un viol proprement dit, oui, ça veut dire qu'il y a abus,
oui,
de la femme. On abuse de la femme. C'est le viol proprement dit. Mais l'acte reste le même. Oui. Qu'il soit dans le mariage ou hors du mariage, l'acte reste le même. Matériellement, biologiquement, c'est le même. Voilà. Donc, le viol est la faute primordiale.
Est-ce qu'on peut être vraiment sûr que c'est sur ce point-là qu'Adam a péché?
On en est sûr parce que c'est la suite qu'il démontre, la suite immédiate et la suite jusqu'à nos jours.
Oui, alors la suite immédiate.
Alors, la suite immédiate, eh bien, là, je crois qu'Adam n'aurait pas péché, ni Ève non plus n'aurait pas péché, s'il n'y avait pas eu la jalousie de Satan. C'est par la jalousie du diable, dit l'Écriture, que la mort est entrée dans le monde. Et la mort est le péché, bien entendu, qui provoque la mort.
Pourquoi le diable a-t-il pu être jaloux?
Il a pu être jaloux. Pourquoi est-ce que le diable, c'est-à-dire un ange...
Parfait au départ,
pouvait-il être jaloux de la créature humaine? Eh bien, justement, il pouvait être jaloux de la créature humaine pour deux raisons. Premièrement, parce que la créature humaine, homme et femme, créée homme et femme, était située dans un rapport de connaissance et d'amour mutuel, dans la même nature, que...
Image de Dieu.
Image de Dieu, que l'ange n'avait pas reçu.
Oui. Il n'était pas l'image de Dieu.
Il n'était pas l'image de Dieu. L'ange n'est pas l'image de Dieu. Il est fils de Dieu, il est créature de Dieu, il est serviteur de Dieu, il fait des anges comme des flammes, comme etc. C'est dit dans le psaume. Mais il n'est pas l'image et la ressemblance de Dieu. L'Écriture ne le dit pas. Et cette image et ressemblance de la Trinité était pour l'ange un objet à la fois de curiosité et normalement aurait dû être un objet d'admiration et d'adoration, mais à cause d'une jalousie, il a essayé d'effacer cette image. Bon, alors, et deuxième raison, c'est que Lucifer, voyant que la femme avait été créée pour une maternité avec l'hymen, à cause de son intelligence angélique, il a dû voir là, il doit y avoir quelque chose de transcendant à tout l'ordre biologique que Dieu a fait dans le monde. Et il a dû deviner que la femme était appelée à une vocation suréminente par rapport à toutes les femelles des animaux. Voilà. Et c'est de ça qu'il a été jaloux. Or, on peut penser, on doit penser, que Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, que Lucifer, porteur de lumière, devait apprendre à l'homme et à la femme, initier l'homme et la femme à la génération sainte, c'est-à-dire les fortifier dans l'obéissance au commandement de Dieu. On le comprend très bien parce que qu'est-ce qu'il a fait l'ange Gabriel quand il est venu porter la nouvelle à la Vierge ? Il est venu porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle de la maternité d'en haut. L'Esprit Saint viendra sur toi et celui qui naîtra sera fils de Dieu. C'est ça que l'ange Gabriel a dit. Il a apporté la bonne initiation. Donc Lucifer, il a manqué à sa charge. C'est l'apôtre Jude qui le dit. Il a manqué à sa charge, il a manqué à sa mission. Et c'est pourquoi il est condamné à l'enfer éternel dans les tourbillons infernaux. Saint Jude.
Oui.
Donc il a commis une faute très grave, par jalousie pour faire tomber l'homme. Et il ne s'est pas attaqué à Adam, parce qu'Adam avait reçu directement le commandement de Dieu. C'est lui, Adam, qui l'avait reçu.
Il en avait la pleine connaissance.
La pleine
clairvoyance.
Et la pleine clairvoyance. Et c'est lui qui devait guider la femme, en quelque sorte, vers l'accomplissement de sa vocation. La vocation de l'homme est de guider la femme vers l'accomplissement de sa haute vocation à la maternité glorieuse. C'est ça. Comme Saint Joseph l'a fait pour la Vierge Marie. Voilà. Alors, il s'est attaqué à la femme et il a parlé d'une façon fourbe, en disant des demi-vérités, en disant à la femme, est-ce que Dieu vous aurait dit par hasard que vous pouvez manger tous les, que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin ? Et Ève a dit, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais il y a un arbre dont Dieu nous a dit, tu n'en mangeras pas, sinon vous mourrez. Donc elle connaissait le commandement. Ça veut dire qu'elle l'avait reçu d'Adam.
Bien sûr.
Elle l'avait reçu d'Adam, parce qu'Adam l'avait reçu dès sa création, avant même la formation d'Ève.
Oui.
Par conséquent, elle l'avait reçu d'Adam. Et elle le répète intégralement à Satan. Elle lui met en face du commandement. Et c'est là que le menteur et homicide dès l'origine, comme dit le Seigneur. Satan, menteur et homicide dès l'origine. C'est là que Satan intervient et dit, mais non, je ne suis pas sûr du tout que vous mouriez. Mais au contraire, si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux, par cette voie de la connaissance du bien et du mal.
Donc vous échapperez à la mort.
Et vous échapperez à la mort, mais c'est pas sûr, peu importe. Oui. Il ne dit pas carrément que vous échapperez à la mort.
Non.
Il ne se met pas carrément contre le commandement de Dieu. Il le met en doute. Il dit, oh non, il n'est pas sûr que vous mouriez. Seulement l'avantage que vous aurez, c'est que vous serez comme des dieux. Ce qui est faux, parce qu'ils sont déjà à l'image et ressemblance de Dieu.
Oui.
Ils n'auront rien de plus. Ils ne peuvent pas avoir quelque chose de plus, parce que l'œuvre était parfaite dès l'origine. Mais il leur fait croire que, par ce moyen de génération, voilà, par ce moyen de génération, ils vont être comme Dieu qui est père. La paternité et la maternité, ils vont l'avoir pour eux.
Donc Satan les initie à la paternité et à la maternité charnelle.
Exactement. Il les initie à la paternité et à la maternité charnelle.
Par le viol, évidemment.
Par le viol. Puisque tous les animaux se reproduisent ainsi, par l'accouplement, pourquoi est-ce que nous ne nous accouplerions pas nous aussi ? Et pour avoir des enfants, et des petits garçons et des petites filles, peut-être, on ne sait pas, on va voir ce que ça va donner. Ils n'avaient pas fait l'expérience. Hein.
Oui.
On va voir ce que ça va donner, et peut-être que ça marchera très bien, pourquoi pas. Voilà. Donc, ils transgressent le commandement de Dieu sous l'effet d'une séduction. Ce n'est pas seulement une tentation, c'est une séduction. Parce que la séduction, c'est très grave. C'est quand il y a une fraude sur l'objet que l'on présente.
Oui.
Voyez-vous,
hein?
Par exemple, vous avez une bouteille d'acide sulfurique, et vous mettez dessus vin d'Espagne. Bon, le gars qui va prendre la bouteille, vin d'Espagne. Si jamais il boit cette bouteille, il va avoir de l'acide sulfurique dans l'estomac. Voilà la séduction, c'est qu'il y a mensonge. Voilà. Une simple tentation, c'est simplement, on sait que c'est une bouteille de vin, et puis bon, l'ivrogne, il est tenté par la bouteille de vin, il sait ce que c'est. Donc c'est une tentation. Mais là, c'est une séduction, parce que le diable fait croire, il fait croire quelque chose de faux.
Oui, il fait croire que ce sera très bien.
Et il le fait croire comme vrai et bon.
Vrai et bon.
Donc c'est une faute très grave.
C'est une faute très grave, surtout de la part de Satan, parce qu'il est très pervers.
Très pervers, très pervers. Perversité absolue. Et alors, on dit parfois que le péché originel de l'homme, c'est que l'homme s'est révolté contre Dieu. C'est pas vrai. C'est absolument faux. L'homme ne s'est pas révolté contre Dieu. C'est Satan qui s'est révolté contre Dieu.
Oui.
Et c'est lui qui porte la principale responsabilité du péché. L'homme, il a seulement désobéi à Dieu. Et c'est pourquoi il pourra obtenir le pardon et la rémission du péché, c'est-à-dire la rédemption. Tandis qu'il n'y aura pas de rédemption pour le diable. Parce que son péché a été clair, total, pervers, dans une intelligence lucide. La rédemption, elle est pour l'homme. Et elle commence par une victoire sur Satan, bien entendu, qui va être remportée par le Christ lui-même.
Donc, ce n'est pas un péché d'orgueil?
Non, c'est pas un péché d'orgueil. C'est un péché de désobéissance. C'est un péché de jeunesse, en quelque sorte. Parce qu'il n'avait pas encore fait l'expérience du bien et du mal. Il devait se soumettre au commandement de Dieu comme un élève se soumet à son maître. Et malheureusement, il va faire la mauvaise expérience.
Alors, à quoi voit-on qu'ils ont bien péché dans le domaine de la génération, enfin dans le domaine de la sexualité, disons.
La sexualité, disons. Mais c'est évident, parce que la suite du texte le montre. Une fois qu'ils se sont accouplés, c'est-à-dire qu'ils ont posé le fameux acte génital, il s'est produit ce qui s'accomplit pour toutes les femmes qui sont créées vierges et qui sont violées, c'est-à-dire que le sang coule. Et alors, à ce moment-là, ils ont eu honte. Ils ont eu honte. Et ils se sont cachés et ils ont cousu des feuilles de figuier pour se faire des pagnes.
Ah.
C'est-à-dire, ils n'ont pas commis un péché d'orgueil, parce qu'ils avaient commis un péché d'orgueil, ils se seraient mis un chapeau sur la tête. Ils n'ont pas péché par orgueil, par la tête, ils ont péché par le sexe. Et c'est pourquoi ils se sont mis des pagnes. Et cette idée de péché par le sexe a toujours été comprise par les pères comme c'est écrit, sans aucun problème.
C'est évident.
C'est absolument évident.
D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder aussi le fruit de cet acte.
Ah oui.
Par la suite.
Par la suite, avec Caïn.
On a eu Caïn qui a été leur premier-né.
Oui, d'accord, d'accord. Mais avant que Caïn soit venu au monde, Adam et Ève subissent un sentiment effroyable qui va corrompre toute la conscience humaine, non seulement pour eux, mais pour tous leurs descendants, c'est-à-dire qu'ils sont pris de peur et de honte. Et ils se réfugient sous un arbre et ils se cachent à la face de Dieu quand ils entendent les pas de Dieu qui se promènent dans le jardin. C'est-à-dire qu'ils entendent le bruit du vent, Ils avaient auparavant une sorte de familiarité avec Dieu, de sorte qu'ils le sentaient, dans toute la nature. Et ils continuent de le sentir, mais cette fois, Dieu n'est plus favorable. Ils sentent que Dieu ne sera plus favorable. Ils ont perdu la justice aux yeux de Dieu. Ils ont perdu la justification aux yeux de Dieu.
Et l'amitié de Dieu.
Il y a quelque chose de cassé entre Dieu et eux. Et alors, ils se cachent de la face de Dieu. Et Dieu les appelle. « Où es-tu ?» Et Adam répond « Je me suis caché, car j'ai eu peur, et je suis nu. »
Je suis nu, donc.
Je suis nu. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à avoir horreur de leur propre corps. Mmh. Ils sont en malaise dans leur nature corporelle. Mmh. Ça, c'est le complexe fondamental que découvrent aujourd'hui les psychologues un peu avertis et qui voient très bien que le complexe de la honte, c'est quelque chose d'inexplicable s'il n'y a pas une culpabilité dessous. Freud, qui a fait cette étude approfondie de la psychologie humaine, dit en effet que le complexe le plus profond qui se trouve dans la psychologie humaine, c'est le complexe de culpabilité. Et de fait, ils subissent à ce moment-là l'interrogatoire de Dieu, qui leur dit, mais qui vous a appris, il s'adresse à Adam, qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais dit, tu n'en mangeras pas. Voilà. Et Adam aurait dû à ce moment-là tomber à genoux devant Dieu et dire oui, j'ai péché, j'ai désobéi à la loi. Mais il a accusé la femme. Il a dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. À ce moment-là, ça y est, l'adultère est rentré dans le monde et la femme a été accusée par l'homme. Elle l'est toujours. Alors ensuite, Dieu interroge la femme, lui dit « Comment, pourquoi est-ce que tu as fait cela ?»« Ah, c'est le serpent qui m'a séduite. » Bon, alors maintenant, chacun va recevoir son châtiment. Satan va être maudit entre tous les animaux. Et une promesse lui est faite, la femme que tu as blessée au talon, c'est elle qui t'écrasera la tête. Voilà la promesse de la rédemption qu'on appelle le protévangile, c'est-à-dire la promesse qu'il y aura un retour à la vérité. Un retour à la justice. Et que ce retour sera fait surtout par une femme.
Alors ce retour, il s'est fait dans le Christ.
Il s'est fait dans le Christ. Il s'est fait avec la Vierge et le Christ.
Et c'est là, avec l'exemple du Christ et avec l'Évangile, que l'on éclaircit, on peut dire, tout à fait.
Tout à fait.
Ces premiers chapitres de la Genèse.
Premier chapitre de la Genèse, bien entendu.
Puisque le Christ est né d'une Vierge.
D'une Vierge. Inviolée. Et d'une vierge qu'il a enfantée dans la joie et l'allégresse. Ça y est, on a la réponse positive. L'Ancien Testament nous donnait la connaissance du péché, et la naissance du Christ, la génération du Christ, nous donne la connaissance de la justice.
Ça, il s'agit de sa génération dans la nature humaine.
Mais dans la nature humaine, bien entendu. Dans la nature humaine, bien entendu.
On ne parle pas ici de sa génération dans la nature divine.
Non, non, non. D'ailleurs, le mot « génération » dans l'Écriture sainte, il revient très, très souvent. Si vous prenez le mot « génération » dans l'Écriture et le mot « il engendra, engendra, engendra », il y a des milliers de fois. C'est le mot qui est le plus nombreux dans l'Écriture. Ce qui veut dire que tout se rattache à une question de génération. On dit « péché originel », mais à mon sens, on ferait mieux de dire « péché de génération ». Erreur biologique de génération.
D'ailleurs, on parle du premier livre de la Genèse.
Genèse.
Genèse veut dire génération.
Génération.
Et quand on commence l'Évangile, Matthieu écrit « Livre de la génération de Jésus-Christ ».
Oui. Donc, livre. Exactement.
Il y a deux générations, l'ancienne qui a été celle d'Adam, pécamineuse.
Oui.
Et puis la nouvelle qui est celle du Christ, qui se fait dans la justice.
Fait dans la justice. Le parallèle est absolument rigoureux.
C'est un parallèle que les pères ont fait souvent.
Constamment. Et on trouve dans les pères, notamment dans Saint-Irénée déjà, dans le livre 5, au chapitre 19, et on trouve dans Saint-Augustin, on trouve dans Saint-Bernard, un parallèle très éclairant entre Marie et Ève, ou entre Ève et Marie. Ève a apporté la désobéissance, Marie a apporté l'obéissance. Ève a apporté le péché et la mort, et Marie nous a donné la justice et la vie. Au début, il y a eu une transgression des lois de Dieu, et au moment où la foi est venue dans le monde, il y a eu une obéissance, une soumission claire, loyale, intelligente, à la même loi de Dieu, à la loi primordiale, parce qu'il n'y en a qu'une. Au paradis terrestre, il n'y a pas les 10 commandements ni les prescriptions que Moïse a ajoutées par la suite, il y a un seul commandement qui est d'ordre biologique.
Voilà. Alors maintenant, regardons les fruits.
Alors, les fruits.
De ces deux femmes.
Ces deux femmes. Alors, quel a été le fruit de l'accouplement d'Adam et d'Ève? Le fruit, ça a été Caïn. Qu'elle a obtenu, dit-elle, qu'elle a obtenu par Yahvé, dit-elle. Non, elle l'a pas obtenu par Yahvé.
Elle ment.
Elle ment. Elle l'a obtenu par Adam.
Oui, et puis aussi par Satan, on peut dire.
Puisque... Elle l'a obtenu par Satan, parce qu'elle s'est soumise à la pensée de Satan. Donc, premier mensonge. Et ensuite, ce Caïn, bon, il grandit, puis plus tard, il est dit, et Ève dépassa la génération. C'est curieux ce mot. C'est là qu'on a le mot Joseph, là, déjà. Dépasser, ça veut dire Joseph. C'est la racine qu'a donnée Joseph. Ève dépassa la génération et elle enfanta Abel. Alors voici que nous nous trouvons devant un texte très mystérieux. C'est qu'il y a deux fils, Caïn et Abel. Et ce qui se passe, c'est que ils ont chacun une religion. Une religion. Caïn offre des sacrifices à Dieu et Abel offre aussi des sacrifices à Dieu. L'un offre des fruits, l'autre offre des animaux immolés. Des animaux immolés. Il y a donc déjà une loi sacrificielle. Une loi sacrificielle. Bon, et alors, Caïn devient jaloux de son frère, Dieu lui parle et lui dit « Fais bien attention à ce que tu vas faire » et il tue son frère. C'est le premier homicide. Caïn était du diable, ça y est, Saint Jean le dit. Caïn était du diable et c'est pourquoi il tua son frère. L'homicide est rentré dans le monde. Avec Adam, c'est la mort qui est rentrée dans le monde. Mais avec Caïn, c'est l'homicide qui est rentré dans le monde. C'est-à-dire que non content de mourir, l'homme a provoqué sa propre mort par toutes sortes de moyens qui étaient à sa disposition, c'est-à-dire des gourdins, des armes, des pistolets, des revolvers, des bombes, etc. Voilà le fruit du péché.
Caïn était du diable. Ça me fait penser à la parole du Christ dans l'Évangile quand il dit « Vous avez le diable pour père ».
Voilà. Voilà. Justement.
C'est terrible cette parole.
Ce fameux chapitre 8 de Saint Jean. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de le lire en détail. Mais ce fameux chapitre 8 de Saint Jean est fantastique quand on le lit avec cette lumière que l'on a du péché d'origine. Parce que le Christ dit aux pharisiens, si vous croyez en ma parole, vous deviendrez libre. Vous deviendrez libre. Et alors ils disent, mais nous ne sommes pas esclaves. De qui sommes-nous esclaves? Nous n'avons jamais été engendrés par une prostituée, non? Nous sommes les fils d'Abraham. Fils d'Abraham, nous sommes très bien comme ça. Nous avons Abraham pour père. Et Jésus leur dit, si vous aviez Abraham pour père, vous accompliriez les œuvres d'Abraham. Vous auriez une foi semblable à celle d'Abraham. Mais ce n'est pas Abraham qui est votre père. C'est le diable qui est votre père. Celui qui a été menteur dès l'origine.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'ils disent aussi, à un certain moment, nous avons Dieu pour père.
Nous avons Dieu pour père, ils disent même.
Oui.
Ils disent, si vous avez Dieu pour père, vous comprendriez les paroles que je vous dis.
Et vous ne chercheriez pas à me tuer.
Et vous ne cherchez pas à me tuer. Or, du fait que vous cherchez à me tuer, comme Caïn qui a tué son frère, vous êtes dans le même péché qu'Adam et Caïn. Ça y est.
Donc, vous avez le diable pour
vous
père.
Vous avez le diable pour père.
C'était terrible pour des juifs.
Terrible. Et l'Église a bien compris que le diable est le maître de la génération. Elle l'a compris.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que lorsque des parents ou des parrains et marraines amènent un enfant au baptême, le prêtre leur dit, pourquoi vous venez faire baptiser cet enfant? Ah! Qu'est-ce que vous demandez à l'Église? Alors ils doivent répondre, nous demandons à l'Église la foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Eh bien, si vous voulez la vie éternelle, observez les commandements. Et puis ensuite, s'ils veulent bien observer les commandements, alors on leur dit, c'est très bien, eh bien alors on va baptiser votre enfant. Et la première chose que le prêtre doit faire, il doit mettre son étole sur la tête de l'enfant et dire, « Sors de cet enfant esprit impur, et cède la place à l'Esprit Saint. Ça y est.
Ah oui. Donc il y a un esprit impur.
C'est le rituel du baptême depuis les origines. Le baptême commence par un exorcisme pour l'enfant. Et au cours de ce baptême de l'enfant, il y aura encore deux autres exorcismes. Et quand c'est un adulte qui vient se faire baptiser, il n'y en a pas un exorcisme, pas deux, trois, il y en a sept. Il y a sept exorcismes au cours des cérémonies du baptême. Ce qui montre bien que l'Église a compris que quand le Christ a donné à ses apôtres le pouvoir de chasser le démon, il faut l'extirper, ce démon. Il faut l'extirper de cette créature de Dieu dont il s'est emparé.
Dès le commencement.
Il y a une prise du diable sur la créature humaine. La créature humaine était faite pour être habitée par l'Esprit Saint. Si Adam avait été fidèle, ses enfants seraient nés par l'Esprit Saint. Ils auraient été conçus immaculés et habités par l'Esprit Saint en état de grâce parfaite.
Et ils auraient été de ce fait fils de Dieu.
Et ils auraient été fils de Dieu, non fils d'une semence corruptible.
Oui.
Parce que l'accouplement était interdit. Ils n'auraient pas été le fruit d'une semence corruptible pour être simplement des rejetons biologiques, mais ils auraient été conçus par le Saint-Esprit pour être habités par la grâce du Saint-Esprit et les sept dons du Saint-Esprit.
D'ailleurs, si Adam était fils de Dieu au départ, ses fils nécessairement devaient l'être.
Et Adam, il avait la connaissance de la génération sainte. Pourquoi ? Parce que lui-même avait vu, avait senti, avait constaté que Ève avait été engendrée de lui par la main de Dieu.
Oui, c'est Dieu qui était intervenu.
Dieu était intervenu pour engendrer Ève de lui. Par conséquent, c'était la démonstration concrète, indiscutable, que la génération appartient à Dieu. Et quand le Christ dit « J'ai révélé ton nom aux hommes », c'est le nom de Père.
Voilà, qui est pleinement manifesté en Jésus-Christ.
Et c'est pourquoi le péché originel est si grave, c'est parce qu'il nous a privés de la paternité de Dieu. Nous sommes nés hors du Père. Et de ce fait, comme les fils de l'homme, les fils d'homme, les fils d'Adam sont nés hors du Père, mais qu'ils ont tout de même toutes sortes de propriétés dans leurs esprits, dans leur mentalité, dans leur cerveau.
Ils ne sont pas tout perdus.
Eh bien, le diable s'empare de tout ça pour bricoler là-dedans tout ce qu'il veut, de façon à tourner en dérision la créature de Dieu. À la tourner en dérision.
Et puis à la détruire. Oui, parce que ça, c'est son but.
C'est son but.
À Satan.
C'est son but.
Alors, le but, par contre, de Dieu, c'est de nous sauver. De nous racheter.
De nous réparer, de nous tricoter de nouveau comme il faut. Voilà, ça y est. Voilà le but de la rédemption. On comprend qu'il y a rédemption dans la mesure où on comprend qu'il y a péché originel. Et la rédemption a été accomplie, comme on le chante pour la fête de Noël. Pour la fête de Noël, on chante le De Profundis, abondante auprès de lui la rédemption. Et pour la veille de Noël, la vigile de Noël, on chante « Demain sera détruite l'iniquité du monde ». C'est fait. C'est fait depuis le moment de l'incarnation. La rédemption est faite par l'incarnation du Verbe. Parce que si nous avions pris conscience, vraiment, de ce que Dieu a fait pour la génération du Christ, pour la génération du vrai Fils de l'homme, eh bien nous aurions renoncé entièrement aux œuvres de la chair. Et il a fallu entendre encore le 4e siècle pour que Saint Léon rappelle aux chrétiens, du moment que vous êtes venus membres du Christ, renoncez aux œuvres de la chair. Ils n'ont pas renoncé.
C'est dans les Épîtres.
C'est dans les Épîtres. C'est la première parole des apôtres après la Pentecôte.
Oui.
Après la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui sont réunies là et qui écoutent le discours des apôtres. Et alors, ils sont tout à fait saisis par la prédication des apôtres. qui parlait avec une autorité divine et qui racontait en disant « Vous avez tué le juste, vous avez massacré celui qui vous était envoyé, celui, le Messie que nous attendions depuis les prophètes, depuis Moïse et les prophètes, vous, c'est vous qui l'avez tué. Maintenant, vous êtes perdus, qu'est-ce que vous allez faire ?» Alors, évidemment, ils sont mis devant la culpabilité d'Israël vis-à-vis de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, repentez-vous et arrachez-vous à cette génération pervertie. C'est clair. Le baptême. Là, et alors ?
Là, il s'agit de la génération charnelle.
Il s'agit de la génération charnelle. Arrachez-vous à cette génération pervertie et vous serez baptisés et vous recevrez l'Esprit Saint. Ce qui est arrivé. Voilà. Voilà la première prédication des apôtres. Si bien que dans la primitive Église, lorsque les baptisés, les catéchumènes étaient instruits du baptême, on leur demandait « Renoncez-vous à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. » On a gardé cette formule encore jusqu'à pas très longtemps. C'était la formule traditionnelle. « Renoncez-vous à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. » Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça veut dire « Je renonce à la génération charnelle avec toutes ses comédies. » Ça y est, c'était. L'engagement baptismal premier, c'est l'engagement que l'Église ensuite a imposé à ses prêtres en leur demandant de garder la virginité, de faire le vœu de virginité. Parce que la logique même de la foi, si on prend la foi telle qu'elle est, si on prend Jésus-Christ tel qu'il est, si on prend l'exemple de ceux qui nous ont donné le Christ, la logique de la foi, c'est qu'il faut faire pareil dans l'ordre de la génération.
Donc le péché originel est très grave, puisqu'il nous a privés de la paternité de Dieu. Et alors cette paternité de Dieu, est-ce qu'on peut la récupérer ?
Eh bien voilà justement la bonne question. Et c'est la question que posait Nicodème à notre Seigneur, en lui disant, nous savons que tu es venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus lui dit tout de suite ? Il lui dit, nul ne peut entrer au royaume de Dieu s'il n'est engendré d'en haut.
Crac.
Alors Nicodème se dit, mais est-ce que je vais retourner dans le sein de ma mère pour être engendré d'en haut de nouveau quelque chose ? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ?
Il voit les choses d'une façon très concrète.
Et il a raison. Et il a parfaitement raison. Il comprend très bien ce que le Christ lui dit. Et le Christ aurait pu lui dire à ce moment-là, mais oui mon pauvre ami, c'est que toi tu es né de la chair et du sang. Et tu es perdu pour le royaume de Dieu. Il faudra que tu passes par la mort et qu'ensuite, peut-être, tu obtiennes la rédemption au-delà de la mort. Mais pour ce monde-là, c'est foutu. Mais le Christ, dans sa miséricorde envers nous, alors a ajouté à Nicodème, écoute-moi bien ce que je vais te dire. C'est que il faut renaître cette fois, de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu, dans sa miséricorde, a institué le baptême pour nous rendre artificiellement, par le moyen d'un artifice divin qui sera efficace, pour nous rendre la filiation divine que nous avons perdue parce que nous ne sommes pas nés immaculés conception. Voilà. Alors évidemment, comme nous sommes nés dans le péché, nous avons un corps, nous avons un organisme, nous avons une psychologie qui reste tributaire du péché. C'est pour ça que le baptême qui pardonne le péché, qui nous réconcilie avec Dieu, nous apporte une grâce qui, si nous sommes fidèles, nous permettra de nous récupérer de plus en plus, de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'ayant été justifiés par le baptême, par la foi et le baptême, nous pourrons nous sanctifier et au terme de la sanctification, il y aura la glorification. C'est la parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains. Voilà.
Oui.
Il y a tout un processus maintenant de reconstruction de la créature humaine à partir de la régénération baptismale.
C'est là que commence la rédemption.
Voilà comment ça rédemption.
Mais il est évident que si on donne les rites, à savoir le baptême et puis tout ce qui suit derrière,
oui,
sans avoir l'esprit de la foi,
oui,
la connaissance de la foi.
La connaissance de la foi.
À ce moment-là, on prêche dans le vide, en quelque sorte.
Eh oui. Et Les rites deviennent de simples habitudes qui sont dénuées de sens et dénuées de profondeur, si bien que l'homme ne se convertit pas vraiment et il revient à la chair et le désastre recommence.
Donc la rédemption, finalement, c'est le retour à la paternité de Dieu.
Exactement. Et c'est pourquoi la rédemption est indiquée dans la première parole du Notre Père, que les chrétiens ont dit des milliards de fois, la plupart du temps sans comprendre ce qu'ils disent, « Père, que ton nom soit sanctifié. »
Ah, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, ça veut dire ce que Marie nous a dit dans son Magnificat. Elle le dit, hein, « Mon âme exalte le Seigneur, etc. » Cette fois, qu'il a regardé son humble servante et tout, « Saint est son nom. » Sanctum nomen eius. Le nom de Dieu est saint. Il a été sanctifié, c'est fait.
Dans le Christ.
Et voilà. Le nom du Père a été sanctifié.
Il est sanctifié par le
Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, qui a permis au Père de manifester son action directe de paternité et de création en même temps sur le Fils d'une femme. Sur l'enfant d'une femme, qui a été Jésus-Christ. Voilà.
Mais alors, c'est là qu'on voit vraiment la gravité du péché originel, parce que avoir la filiation adoptive,
oui,
par rapport à la filiation réelle, c'est une différence considérable.
C'est une différence considérable. Et c'est pour ça que la rédemption implique que Dieu va recréer en nous, va recréer, c'est une œuvre de création nouvelle, il va réparer et recréer ce qui a été détruit par le péché. Voilà. Et la rédemption sera pleine lorsque nous aurons vaincu la mort et que la sentence de la mort et de la décrépitude sera écartée.
Oui, parce que la mort portait sur le péché.
Elle portait sur le péché.
Donc normalement, le retour à la justice doit porter sur la vie.
Elle doit porter sur la vie. Je suis la voie, la vérité et la vie.
Et oui.
Ça y est.
Donc l'Esprit Saint, que nous n'avons pas eu à notre conception, malheureusement.
Malheureusement.
Il nous est rendu au baptême.
Oui. Il nous est rendu au baptême. Et il nous fait fils de Dieu. Le baptême nous fait fils de Dieu et de l'Église. Bon, ça y est. C'est la définition dogmatique du baptême. Et avec l'Esprit Saint, nous avons la grâce et la justification aux yeux de Dieu. Nous pouvons vivre en état de grâce, c'est-à-dire que Dieu va pouvoir mettre en nous ses complaisances comme il les a mises dans le Christ. Nous sommes fils adoptifs, mais nous sommes fils, Saint Jean le dit. Nous sommes vraiment fils de Dieu. Il a fait de nous de vrais fils de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, c'est fait. Mais alors il ne faut pas perdre cette justice, il ne faut pas perdre cette justification aux yeux de Dieu. Il faut vivre en état de grâce. Et si le chrétien, établi dans la grâce, retourne au même péché qu'Adam. C'est-à-dire que de nouveau, il va violer le sein virginal pour avoir des enfants selon la chair ou pour ne pas avoir d'enfants selon la chair. Ce qui est encore pire, en utilisant des procédés plus ou moins tordus. Eh bien, à ce moment-là, il perd la grâce. Il retombe dans la génération charnelle et il perd la grâce. Il a perdu la grâce.
Faites ironie son baptême.
Ironie son baptême. C'est pour ça que Saint Jean dit dans son épître, Dieu est miséricordieux, il pardonnera vos péchés. Mais si vous voyez un frère qui a péché, priez pour lui. Mais, et il obtiendra de nouveau la grâce. Mais si ce frère commet le péché qui va à la mort, il est inutile de prier pour lui. Oui, et le péché qui va à la mort, c'est le retour à la génération charnelle.
Oui, surtout s'il est fait en toute connaissance, en toute clairvoyance.
En toute clairvoyance.
Évidemment.
C'est évident. Alors l'Église, malheureusement, n'a pas gardé cette rigueur qu'elle avait dans les premiers temps, qu'on lit encore dans les Vierges chrétiennes, Sainte Cécile et les autres, qui considéraient que leur corps était consacré à Dieu, et que désormais c'est fini la virginité, il faut la garder coûte que coûte. Même en renonçant à un mariage légitime, honorable et tout, non!
En vue d'une génération sainte.
En vue d'une génération... Oui. Elles veulent une génération sainte.
Oui.
Si le mari veut marcher dans la voie virginale, c'est très bien. Et on a des couples, dans les premiers temps, qui ont marché dans la voie virginale. Comme Valérien et Cécile, par exemple, ou comme Chrysanthe et Darie à Narbonne. Mais le problème, c'est qu'ils ont été très vite supprimés, parce que Satan n'a pas voulu garder dans son domaine des gens, des chrétiens, des témoins qui détruisaient son ouvrage.
Donc la femme chrétienne, elle doit espérer une génération d'en haut, et non plus une génération charnelle.
Absolument. Absolument, c'est la logique même de la foi.
Par l'Esprit Saint.
Par l'Esprit Saint, et c'est l'accomplissement de la vraie vocation de la femme. Parce que dans l'Église, il y a eu des femmes qui ont eu la vocation dite religieuse, et qui, pour signifier cette vocation religieuse, ont gardé la virginité, mais ce n'est pas suffisant.
Oui, parce que c'était une virginité stérile, quand même.
Une virginité qui reste stérile.
Ce n'était pas une virginité féconde.
Dans le Christ Jésus, pas d'homme sans femme, pas de femme sans homme. Il ne s'agit pas de séparer les sexes. Mais il s'agit que le couple humain se conforme à la foi de ceux qui nous ont donné le Christ et qui étaient un couple. La Vierge Marie n'était pas une vierge solitaire, c'était une vierge épouse. Donc il y a un mystère sponsal qui doit exister entre l'homme et la femme. Un mystère sponsal dans lequel se réalise l'unité du couple. Ils deviendront une seule chair, ils seront une seule chair. Parce qu'un homme et une femme en ce monde-ci, ils ne sont pas créés directement par Dieu comme l'étaient Adam et Ève au départ. Ils sont nés de deux familles différentes, il y a toutes sortes de chromosomes différents, et il faut que l'unité se refasse. Il y a donc un comportement entre l'homme et la femme qui doit refaire l'unité du couple. Et là, c'est une doctrine de sanctification à la fois spirituelle et pratique, qui n'a jamais été envisagée dans l'Église. C'est ça le drame.
Cette prescription du Seigneur, ils seront deux en une seule chair. Mais elle est au commencement.
Elle est au commencement. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Et lorsque le Christ, justement, rencontre les pharisiens et les docteurs en Israël, qui voudraient obtenir la permission de se séparer de leur femme, il leur rappelle cette prescription du début. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Par conséquent, il faut retrouver l'unité de l'homme et de la femme.
Adam et Ève, du fait que Ève avait été engendrée d'Adam,
oui.
Ils étaient dès le principe une seule chair.
Ils étaient une seule chair dès le principe. Cette unité a été perdue au cours des générations. Il faut la retrouver. Et par conséquent, il faut que l'homme ait un comportement sexuel à l'égard de sa femme, par laquelle va être prolongée cette génération de la femme par l'homme. Et c'est ici que le sacrement eucharistique est pour nous d'une lumière formidable. Parce que lorsque le Christ a institué la Sainte Eucharistie la veille de sa passion, il ne l'a pas instituée pour tout le monde. Il ne l'a pas instituée pour les Juifs, qui étaient répartis plus ou moins par là, des disciples plus ou moins inconnus partout. C'étaient les disciples qu'il avait suivis dans ses épreuves. Donc c'était ceux qui étaient vraiment initiés à sa doctrine et qui croyaient qu'il était sorti de Dieu. Alors il a institué le sacrement eucharistique, il a pris le pain et le vin, il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et ayant fait ce geste eucharistique, par lequel les apôtres, qui sont l'Église, qui sont l'épouse du Christ en quelque sorte, vont manger le corps du Christ, il leur prescrit le commandement nouveau. Et le commandement nouveau qui est « Aimez-vous l'un l'autre, aimez-vous l'un l'autre comme je vous ai aimé. » Et le Christ en disant « l'un l'autre », il parle à Adam et Ève, il parle à l'homme et à la femme. Il faut que l'un l'autre, vous soyez un par voie eucharistique.
À l'image
du Christ à l'Église. Et lorsque saint Paul rappelle dans l'Épître aux Éphésiens, il dit « Épouses, soyez soumises à vos hommes comme l'Église est soumise au Christ. Mais vous les hommes, aimez vos femmes, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. » Le Christ n'a pas aimé l'Église par voie génitale.
Oui,
il a aimé l'Église par voie eucharistique. Et il dit, saint Paul, de même que nous sommes devenus un seul corps avec le Christ, parce que nous avons part à son corps, ainsi les hommes doivent aimer leurs femmes. Or, le Christ s'est fait nourriture vivante pour nous. Ainsi l'homme doit être une nourriture vivante pour la femme. C'est la voie eucharistique et virginale qui, dans le mystère sponsal, réalisera peu à peu l'unité d'une seule chair. Car s'il est vrai que l'Eucharistie a été donnée à tous les fidèles pour que, se nourrissant du corps du Christ, les déficiences de leur corps, les déficiences de leurs organismes soient réparées par une sorte de greffe biologique, une greffe biologique sur le corps très saint du Christ, indispensable, pour que les conséquences du péché soient écartées, non seulement le péché, mais les conséquences. Eh bien, l'Eucharistie, qui est ce remède, est aussi un enseignement pour que, dans le mystère sponsal de l'homme et de la femme, se réalise une image du mystère sponsal du Christ époux vis-à-vis de l'Église épouse. Et saint Paul ajoute, quand il a donné cet enseignement dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, c'est ainsi que les hommes doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc le vrai commandement qui a été donné, ils seront deux en une seule chair, je dis moi, qu'il s'explique par le mystère du Christ et de l'Église. Par conséquent, comprenne qui pourra, comprenne qui peut accéder à la vérité, comprenne celui qui est guéri de la honte congénitale pour accepter le corps tel qu'il est et le prendre tel qu'il doit être pris, tel qu'il doit être considéré. Il y a un rite sacré de la virginité, la consécration virginale, et il n'y a pas que la virginité qui est sacrée. La sexualité aussi est sacrée, parce qu'elle est l'œuvre de Dieu.
Oui.
Et la sexualité doit être conduite par un usage qui est vraiment sacré.
La semence de l'homme, elle est sacrée.
La semence de l'homme est sacrée.
Donc elle a un rôle à jouer.
Oui, mais elle n'a pas un rôle génital, elle a un rôle eucharistique. Voilà la vérité qui nous délivrera. La vérité tout entière qui nous délivrera et qui rétablira l'unité de l'homme et de la femme qui a été perdue depuis bien longtemps et qui n'a jamais été retrouvée, sinon dans le couple de Saint Joseph et de Sainte Marie, qui étaient mariés, qui étaient hommes et femmes, et qui dans leur unité nous ont donné le Fils de l'homme. Or ce qui est très curieux justement, c'est que Jésus ne dit pas « je suis le fils d'une vierge », il ne dit pas « je suis le fils d'une femme », il dit « je suis le fils de l'homme ». C'est-à-dire de l'homme unifié, de l'homme qui a retrouvé l'unité devant la face de la Sainte Trinité, de l'homme mâle et femelle dans lequel la Sainte Trinité voit avec bonheur et avec complaisance son image et sa ressemblance. Vous voyez que l'Eucharistie et la Trinité sont profondément unis pour la rédemption de l'humanité, pour la rédemption de l'homme.
Ce que nous attendons toujours, c'est la venue des fils et des filles de Dieu.
Ah, voilà. C'est pas nous qui les attendons. C'est surtout le Seigneur qui les attend, d'une part. Et c'est toute la création, dit saint Paul, toute la création souffre et gémit dans les douleurs de l'enfantement, en attendant d'être délivré par l'avènement des fils de Dieu. Le Christ est le premier-né d'un grand nombre de frères, ceux qui naîtront comme lui d'une génération virginale et glorieuse.